abrège avec ta mère, on va louper le début.
Maman, je... Ouais, je raccroche là, c'est... Non, mais c'est le début de l'agité du local.
Et c'est sur l'autre radio.
Le bruit du monde semble s'éloigner un peu, les lumières s'éteignent. D'ailleurs, une lumière qui s'éteint est particulièrement radiophonique. L'auditeur de l'autre radio y est forcément sensible. Tiens, nous voilà dans une autre époque, ou peut-être la nôtre, mais vue à travers les reflets d'un grand miroir. Un miroir où tout s'entremêle, illusion, ambition, désir et désenchantement. On va parler de rêves qui se heurtent au réel, de l'ascension d'un jeune homme venu conquérir Paris, une ville qui attire et dévore. On raconte une histoire intime pour dessiner la fresque d'une société et pour parler d'espoir qui s'effrite sous le poids de trahison. Vous aurez peut-être reconnu les illusions perdues de Balzac. Et aujourd'hui, celle que je reçois, c'est une comédienne qui prête son corps, son souffle, ses silences et sa voix à ce récit magistral adapté et mis en scène par Pauline Bayle. Aujourd'hui, c'est Manon Schiersen, comédienne, qui nous parle de cette adaptation que vous retrouverez sur la scène du théâtre L'Entracte à Sablé-sur-Sarthe ce jeudi 14 novembre. Voilà, après l'entretien du jour, on se retrouve à l'hôtel de ville de Laval. On y était lors du vernissage de l'exposition Combat de femmes, qui lance en quelque sorte le départ d'une série d'actions, d'événements pour ce mois de novembre autour de la journée internationale des violences faites aux femmes. On écoutera Aurélie Garabello, co-organisatrice, nous en parler. Et puis, comme chaque mardi, on prend quelqu'un au téléphone pour la petite annonce au bout du fil dans votre émission quotidienne. On l'écoute juste après la première pause musicale. Et voilà, on terminera avec une très très bonne nouvelle dans cette émission, puisque c'est le retour de la chronique qui a d'ailleurs beaucoup de succès. Il s'agit d'un autre écho de l'écho et de Soizic que j'ai le plaisir de retrouver pour cette nouvelle saison. On la retrouve en fin d'émission. Voilà un très beau programme, un riche programme pour cette émission L'Agité du Local. Nous sommes le mercredi 13 novembre, déjà d'autres disent peut-être, enfin d'ailleurs, on ne vit pas tous toujours les mêmes choses ou de la même manière, tant mieux, tant pis. Enfin voilà, je suis Margot et même si je sais très longuement parler seule, je suppose que vous avez hâte d'écouter notre invité. L'agité du local sur l'autre radio. Bonjour Manon Schiersen, vous êtes comédienne, mais durant votre parcours, vous avez également écrit et mis en scène des pièces, notamment « Mon vacarme fut silencieux » en 2012, qui obtiendra le prix du meilleur travail de fin d'études et de meilleure comédienne au Festival des Automnales des Cours Florent. En 2014, vous avez écrit « Morsure », une pièce sur les violences faites aux femmes, qui s'est également vue distinguée en République tchèque, entre autres. Depuis, vous avez bien évidemment été comédienne sur différents projets, mais aujourd'hui, vous êtes avec nous pour parler en particulier de la pièce « Illusion perdue », mise en scène par Pauline Bayle, qui sera jouée sur la scène du théâtre L'Entracte ce jeudi 14 novembre. Alors après cette longue et nécessaire introduction, et pour se plonger directement dans la pièce, est-ce qu'on peut parler des personnages que vous jouez ?
Alors, j'en joue plusieurs. En fait, nous sommes cinq comédiens sur scène et nous en jouons, je crois, à peu près plus de 18 personnages. Donc, chacun a plusieurs personnages à son actif, et sauf le personnage principal, Lucien de Rubempré, qui est joué par la comédienne Anissa Daou. Donc voilà, on est tous ensemble dans cette joyeuse farandole de personnages, et c'est très plaisant à voir, et ça nous permet d'amener au plateau finalement beaucoup plus de personnages que de comédiens sur scène.
Alors qu'est-ce qu'on peut dire peut-être de l'histoire qui va nous être jouée sur scène, puisqu'il s'agit d'un classique, d'une adaptation de Balzac, mais pour l'auditeur qui ne connaîtrait pas du tout cette histoire, est-ce qu'on peut en dire quelques mots ?
Tout à fait. Alors c'est l'histoire de Lucien de Rubempré, qui voudrait être écrivain, qui écrit des vers, des poèmes. Il habite à Angoulême et il va monter à Paris pour réaliser son rêve, vendre ses poèmes, devenir poète. Et à Paris, il va rencontrer la réalité de la société, de ce que c'est que de devenir écrivain. Pour ça, il va s'essayer journaliste, car l'écrivain qu'il est, ne trouvant pas à être publié, il va rentrer dans la machine du journalisme qui, à cette époque, est en plein essor et se construit vraiment... une société marchande autour de ça, et donc il va devoir ne pas vendre son âme au diable, mais ça va être très difficile. Et les Illusions perdues racontent cette histoire-là, cette épopée de Lucien à l'intérieur de ce monde-là, et ça finira assez mal. Voilà, ce qui est la fin du livre finit comme ça. Ensuite, c'est Splendeur et misère, la suite de ce livre-là.
Pauline Bayle, ce n'est pas la première fois que vous travaillez avec elle, mais qu'est-ce qui vous a peut-être le plus attiré dans ce projet-là en particulier ?
Alors, justement, le texte. Bon, j'adore, je suis une amoureuse du texte et j'étais très heureuse que Pauline, en effet, on avait déjà collaboré ensemble. En fait, on s'est rencontrés sur les projets Iliade et Odyssée, qui sont aussi deux grandes épopées d'Homère, donc, où elle a déjà fait des adaptations comme ça de grandes œuvres. Et s'attaquer à Illusion perdue, effectivement, c'est un grand challenge. Pour ma part, en tant qu'une de ses comédiennes, une de ses amies, et puis j'aime beaucoup le travail de Pauline. Je trouve qu'elle a vraiment réussi à adapter ce roman avec brio et avec une grande intelligence et un grand respect du texte aussi, parce que je crois qu'elle aussi, une des grandes envies de mettre en scène ce texte, c'est le texte. Voilà, c'est l'amour de tous ces mots, parce qu'effectivement, on en dit beaucoup, et elle aime mettre au centre le théâtre, les comédiens, les enjeux, le texte. Pour répondre à votre question un peu plus directement sur ce que je peux aimer le plus, c'est que Pauline, elle travaille sur un théâtre, je vais dire, de la simplicité, c'est-à-dire qu'il y a les comédiens, le texte et peu d'autres artifices, et c'est nous qui portons vraiment l'histoire qui est plus grande que nous. De toute manière, donc on essaie juste d'être les porte-parole de cette histoire-là. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on est moins de comédiens que de personnages, parce que pour Pauline, on peut tout incarner, on peut tout être. Le théâtre, c'est dire je suis telle personne et le spectateur le voit, c'est nommer quelque chose pour que le spectateur et son imaginaire fassent le travail aussi et qu'il ait une grande place là-dedans. Donc on n'a pas besoin de lui donner tout à voir. C'est lui qui l'invente, c'est lui qui le pense, c'est lui qui le voit à sa manière aussi. Et donc c'est ça qui est très intéressant et c'est superbe de savoir qu'on porte ça. Voilà.
J'allais justement y venir. Pauline Bayle est justement connue pour sa mise en scène plutôt minimaliste, axée sur le jeu d'acteur. Alors j'imagine qu'en tant que comédienne, c'est forcément un travail un peu particulier. On ne s'appuie pas sur un décor, on doit créer via son jeu l'imaginaire chez le spectateur.
Oui, tout à fait. Mais à l'intérieur du travail, en fait, ce qui est assez passionnant et en même temps déroutant au début, effectivement, c'est que oui, on ne peut pas s'appuyer sur grand-chose et c'est uniquement sur les enjeux. Savoir pourquoi j'entre sur scène à ce moment-là et pourquoi mon personnage vient dire telle chose, quel est son but, quel est son objectif. Voilà, c'est vraiment l'enjeu du texte. Et c'est pour ça qu'on peut jouer tous les personnages, que ce soit des hommes, des femmes. Voilà, c'est aussi un théâtre où on joue des personnages d'un autre genre et ce n'est pas grave parce que l'important... Et justement, c'est non seulement pas grave, évidemment, mais c'est surtout, ça vient mettre en exergue le fait que, quel que soit mon sexe, les enjeux qui peuvent m'animer dans la vie, la colère, la jalousie, l'amour, la passion, le désir, ils sont partagés par tous. Et donc, je peux les incarner au plateau. Et en fait, dans le travail de scène, de comédien et comédienne, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on ne plaque pas. Avec Pauline, on plaque pas d'abord une situation où se dire « bon, bah, alors je joue Madame de Bargeton, par exemple, et donc je me dis qu'elle joue comme ci, comme ça, qu'elle bouge comme ci, comme ça ». On va vraiment se concentrer et chercher à l'exactitude dans le jeu, dans les enjeux, et puis le reste viendra au fur et à mesure, et donc avec le plaisir, parce qu'au fur et à mesure, évidemment, il se trouve plein de choses dans chaque personnage, et par contre, c'est vraiment c'est super pour nous, on est très heureux, c'est très jouissif de jouer autant de personnages et de sentir que ça se dépose dans le corps et qu'il y a plein de choses qui s'inventent au fur et à mesure de la création, quoi.
Et à la fois, j'imagine que ça doit être un défi de basculer d'un personnage à un autre tout au long de la pièce, c'est une performance, on peut le dire.
Au début, c'est un peu vertigineux parce que la scénographie aussi, la mise en espace de la pièce est un peu particulière et on est tout le temps en jeu. Il n'y a pas vraiment de sortie de personnage et on passe d'un personnage à l'autre en quelques secondes, en signifiant avec un costume en plus, avec une petite chose que hop, on a changé de personnage. Et donc, c'est au début, quand on a commencé à jouer, évidemment, c'est un peu vertigineux. Et en même temps, tout le plaisir et toute la virtuosité, voilà, naît de là. Et nous, à l'intérieur, une fois qu'on a senti tout ça et qu'on commence vraiment à s'amuser, à en jouer et à vraiment être en pouvoir de ça, j'ai envie de dire, on est très à l'aise avec tout ça, ça devient vraiment une superbe partition à jouer. Et je pense que pour le spectateur, cette virtuosité-là participe vraiment de l'émotion qu'on peut avoir, de la surprise qu'on peut avoir du spectacle et de comment on vit. Ça sert l'enjeu même de la pièce où on a ce Lucien, comme je le disais tout à l'heure, joué par la même comédienne. C'est un vrai choix puisque il est central, ce personnage, et lui va être baladé par tous les autres personnages qui vont l'attirer dans un sens, dans l'autre, complètement lui brouiller la tête et le cœur et l'âme. Et on va voir comment Lucien se débat un peu au milieu de ce ring. C'est vraiment un peu le ring de boxe où il va devoir lutter assez fort.
Justement, alors, vous parlez de ring. Vous en avez dit quelques mots. Je ne sais pas trop ce qu'on peut dire de cette scénographie. Mais elle a sa particularité pour vous en tant que comédienne, mais aussi pour le spectateur.
Oui, tout à fait. Alors, si des gens viennent nous voir, je ne veux pas spoiler la surprise. Mais c'est assez... Le spectateur peut être assez proche de nous, il est avec nous, on peut se servir aussi de lui pour l'embarquer avec nous et qu'il participe à être à Paris, à Angoulême, enfin voilà, le sentir avec nous et que lui-même puisse se dire « oui, je fais vraiment partie de telle ville, de tel moment de la vie de Lucien, je suis avec les journalistes ou je suis de tel côté », voilà, on essaie... Ça fait vraiment aussi partie des recherches de Pauline à l'intérieur de son travail, où à partir de ce texte qui, en plus, voilà, ce ne sont pas des textes de théâtre, donc l'adaptation est grande et immense. Je ne sais même pas comment elle fait pour y être arrivée, de toute manière, après ces 12 versions de textes et de grands travaux au plateau, parce que c'est vraiment avec les comédiens ensuite où ça cherche, où vraiment on cherche comment une sensation, une émotion qui a été ressentie à la lecture, où on sent le moment que vit, par exemple, Lucien de Rubempré, comment on va faire avec le théâtre pour faire ressentir ça au spectateur. Et donc, la particularité un petit peu de la scénographie et de la mise en scène, et c'est d'aller dans cette recherche-là, dans ce sens-là.
Je pense que ce qu'on peut également dire, c'est que cette scénographie, dont on ne va pas davantage parler, puisqu'il faut effectivement garder la surprise, permet une lecture moderne et épurée, une identification face à ces thèmes qui sont finalement plutôt intemporels. La quête de gloire, la désillusion, la manipulation, ce sont des choses auxquelles aujourd'hui le spectateur peut encore s'identifier.
Oui, complètement. Et puis je crois que justement, ça participe vraiment à la surprise et à ce qu'on peut ressentir quand on sort du spectacle, parce que peut-être qu'on ne s'attend pas, et moi non plus, en découvrant le texte, en commençant à être au plateau, on ne s'attend pas forcément à un tel écho de cette pièce avec notre présent. Donc oui, ça y résonne énormément. Et je pense qu'effectivement, une mise en scène assez épurée et où l'imaginaire se suffit et où il y a quelque chose qui n'empêche pas d'entendre la langue de Balzac et en même temps de la poser et de l'entendre avec l'oreille d'aujourd'hui et de mettre en parallèle ces époques, ces sensations, ces émotions et de se rendre compte qu'il y a des choses qui résonnent vraiment très fort. Ça sert à ça aussi, évidemment. Hein. C'est une des raisons pour lesquelles le théâtre nous réveille, nous fait ressentir des choses et oui, nous éveille, nous questionne. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles Pauline a choisi ce texte et qu'il lui a plu, qu'elle a eu vraiment cette envie viscérale de s'attaquer à cette œuvre immense de Balzac. Ouais.
Si on parle de mise en scène et du travail avec les autres comédiens, on peut parler à la fois d'un timing précis et d'un travail dans l'espace tout aussi minutieux entre vous. C'est une force, j'imagine, de travailler de cette manière. J'imagine, pour vous, de devoir vous appuyer les uns sur les autres de cette manière tout au long de la représentation.
C'est immense, notre collaboration et ce qu'on porte en fait ensemble. Dans ce spectacle, et on le sent très fort au plateau, c'est très choral, c'est une partition extrêmement précise, donc en fait à très peu de choses, on est vraiment sur une partition qu'on suit à la note précise, quoi, vraiment. La collaboration s'est très bien passée. Je pense que Pauline, nous on est une deuxième équipe de comédiens et comédiennes. Il y a une première équipe de création Et puis 2 ans après, il y a eu toute une nouvelle équipe dont je fais partie aujourd'hui, voilà. Et lors de cette reprise, je pense que Pauline, elle cherche, elle a à cœur aussi de trouver des personnes qui vont aimer ce travail-là, ce travail choral, qui sont bienveillantes dans le travail. On a un peu des façons de travailler qui sont les mêmes. Elle avait pensé à nous pour certains rôles, tout en étant extrêmement à l'écoute de nos propositions, de ce qu'on amène, de qui on est, de profiter de l'énergie et de la singularité d'un comédien ou d'une comédienne. Ça, Pauline, elle a une grande intelligence de plateau là-dessus. Enfin, moi, que je ressens très fort en tant que comédienne, où je me sens toujours très libre de proposer, d'être moi et d'amener ce pourquoi elle m'a aussi choisi, ce pourquoi moi j'amènerais une singularité sur un personnage ou une proposition. Voilà. Et entre nous, ça s'est fait assez naturellement dans cette équipe, vraiment. Donc voilà, énormément de chance d'être ensemble parce que c'est un texte qu'on aime. On est vraiment au service de cette pièce et on est heureux de l'être. Et je pense que ça se sent au plateau, que l'amitié qui s'est créée aussi dans les comédiens, elle sert vraiment ce spectacle en particulier. Parce qu'on ne tient en effet que les uns sur les autres. Et donc, c'est très précieux pour le spectacle que nous-mêmes, notre entente, notre façon de travailler et la façon dont l'énergie passe entre nous soit bonne et au service de ce texte. Ouais.
Et alors, pour terminer, Manon Schiersen, quel espoir, quel retour vous pouvez avoir quant au ressenti du spectateur, un spectateur qui n'est pas forcément d'ailleurs un adepte des grands textes du répertoire, mais qui aurait cette curiosité de venir, de se rendre dans la salle pour découvrir cette histoire que vous jouez sur scène?
Eh bien, je l'entends déjà beaucoup des spectateurs et ça fait vraiment plaisir parce que ça peut faire un peu peur un spectacle d'un classique qui dure 2h30. Donc, des fois, on se dit un peu. Et moi-même aussi, quand je vais au théâtre et que je vois 2h30, je me dis oh là là, attends, c'est long quand même. Donc, mais en fait, on se laisse vraiment porter par l'histoire. J'entends beaucoup de spectateurs qui se disent mais moi, là, ça fait longtemps que je ne suis pas allée au théâtre ou j'y vais presque jamais. Et là, d'un coup, je viens voir un classique. Bon, c'est un roman, mais justement, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et je me suis dit, ça dure longtemps. Et en fait, c'est la surprise d'être porté par l'histoire. Quelque chose, on vient vous raconter vraiment cette histoire-là. Et en fait, c'est la surprise du spectateur à être tenu par ça, par les péripéties qu'il arrive à Lucien, par d'un côté, la simplicité d'être surpris par un texte de théâtre aussi, enfin là qui maintenant est au théâtre, d'être surpris par les émotions, les sensations qu'on peut en avoir à écouter cette histoire et se sentir partie prenante finalement d'être avec et d'être tenue par tout ça. Ça, c'est une grande surprise et c'est vraiment réjouissant. Si c'était vraiment un espoir de me dire oui, il n'y avait pas grand-chose et pourtant le spectateur ne pouvait plus lâcher tous ces mots qui sont dits et ça c'est très beau. Et puis il y a des belles surprises dans le spectacle aussi qui peuvent amener des émotions dont on ne se doute pas en début du spectacle et voilà, de nous suivre dans cette aventure et d'en être enrichi en sortant avec plein de questions, avec plein de d'échos à ce qu'on vit en ce moment et de ressortir riche de ça, j'espère.
Je crois qu'on peut terminer là-dessus. Merci beaucoup Manon d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et je le rappelle, pour découvrir la pièce Illusion perdue, une adaptation de Balzac, ça sera à Sablé-sur-Sarthe au théâtre L'Entracte sur la scène Joël Le Teul le jeudi 14 novembre à 20h30. Et donc on va vous découvrir à travers plusieurs personnages puisque je le rappelle, il y aura 5 comédiens pour une vingtaine de personnages sur scène. Donc ce sera vraiment, on peut le dire, une performance et puis une occasion de découvrir ou redécouvrir un grand texte du répertoire. Merci encore Manon d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous en parler.
Merci infiniment. Au revoir.
Au revoir. Et alors, l'agité du local continue juste après avec l'annonce au bout du fil. Mais avant ça, on écoute Qu'est-ce que j'y peux de Pépite.
Oh oui, chérie, qu'est-ce que j'y peux? Oh oui, chérie, qu'est-ce que j'y peux? Si tu rêves à mieux, qu'est-ce que j'y peux? Aussi j'aimerais que la vie soit plus facile, que tout soit beau, qu'on me laisse tranquille. tu rêves à mien. Qu'est-ce que j'y peux? Moi aussi, parfois, j'aimerais quitter la ville. Que tout soit beau, qu'on me laisse tranquille. Oh, chérie, qu'est-ce que j'y peux? La vie, c'est dur, mais c'est marrant. On n'est pas sûr, tout est maintenant. L'air est si pur, on le croyait. C'est l'aventure, pas celle qu'on voulait.
Jean-Pierre ? C'est Jean-Pierre ? Allô ? Mais qu'est-ce que c'est que ce Beans ?
Excuse-moi,
vraiment con.
Excuse-moi.
Ça te dérangerait pas de sortir pour aller téléphoner ?
Dis donc, oh !
Allô, allô ? C'est Guy ? Bah...
Alors la petite annonce au bout du fil aujourd'hui, c'est celle de Nicolas Charles, administrateur au festival Les Bouts de Ficelle. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Tu viens nous parler d'une soirée de soutien qui aura lieu le 23 novembre. Explique-nous.
Alors oui, on organise à la salle des fêtes dedans une soirée de soutien pour le festival des Bouts de Ficelle, puisqu'on a eu une édition compliquée financièrement cette année. Ben, le bilan moral excellent, mais compliqué en termes de fréquentation. Et on a besoin de récolter des fonds sur la fin d'année pour pouvoir honorer tous nos engagements et régler 100% de nos fournisseurs et partenaires.
Et alors, qu'est-ce qui va se passer cette soirée du 23 novembre ?
Donc le samedi 23 novembre, on organise donc une soirée à la salle des fêtes à prix libre. Alors on a mis un prix conseillé à 10 euros. On s'est mis comme objectif ici de récolter pendant cette soirée une somme d'environ 3000 euros. L'idée, c'est d'accueillir donc 19h pour l'apéritif. Il y aura un système de restauration sur place. On va cuisiner donc soit végé, soit rougail saucisse. Et ensuite, on propose une programmation de 5 artistes locaux. Donc, on aura 4 DJ et un groupe de musique.
Et justement, si on regarde un peu la programmation, à 20h, ce sera Aro Undino, à 21h, Chamallow, à 22h, Band of Brothers, à 23h30, Pinson, et à minuit 45, le groupe Red Deep. Et alors, Nicolas, pour assister à cette soirée, est-ce qu'il faut s'inscrire ?
Alors, pour ça, on peut réserver. Donc, on a mis le lien sur les réseaux sociaux, sur le Facebook et sur Instagram. Des Bouts de Ficelle, on peut s'inscrire donc soit donc pour venir à la soirée ou également pour faire un don. Si on peut pas se rendre à la soirée et qu'on souhaite nous soutenir, on peut effectuer un don directement en ligne et on enverra après un reçu fiscal puisque ce sera déductible des impôts.
Et donc pour tout ça, on peut retrouver ce lien sur vos réseaux sociaux Les Bouts de Ficelle, Instagram et Facebook, c'est ça ?
Exactement.
Ok, bah super, merci beaucoup Nicolas. Donc je rappelle la date, ça aura lieu donc le 23 novembre, à bien noter dans nos agendas. Merci Nicolas.
De rien, merci beaucoup à toi aussi.
À bientôt. Vous écoutez toujours l'Agité du local sur l'autre radio, 107.9 à Château-Gontier et 101.7 à Laval. Et alors, ça y est, elle nous a rejoint. Soizic, bonjour.
Bonjour Margot, bonjour tout le monde. Trop contente d'être de retour derrière le micro.
C'est le grand retour d'un autre écho de l'écho. Donc on vous écoute juste après la diffusion du reportage du jour. Mais est-ce que vous pouvez nous teaser un petit peu cette toute première chronique de la saison ?
Oui, oui, ça fait longtemps que je suis venue Margot et j'ai vraiment profondément réfléchi et j'ai profondément changé. Vous allez voir.
D'accord, bon bah alors on a hâte de découvrir ça, restez à l'écoute de l'Agité du Local sur l'autre radio. Là tout de suite on va d'abord parler plutôt d'un vernissage qui a eu lieu le mercredi 6 novembre à l'Hôtel de Ville de Laval, celui de l'exposition Combat de Femmes, une exposition mêlant sculpture, peinture et témoignages écrits. C'était le premier temps autour de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Différents rendez-vous sont proposés jusqu'au 26 novembre. Ce vernissage était aussi donc l'occasion de présenter l'ensemble des partenaires et structures ayant participé et de donner les différentes dates à ne surtout pas manquer. Justement, on écoute d'abord Florian Berco, maire de Laval et président de Laval Agglo, qui a dit quelques mots avant de laisser la parole aux différents organisateurs.
J'ai surtout en mémoire un livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps, qui s'appelle « Ceci n'est pas un fait divers » de Philippe Besson, et qui m'a beaucoup marqué, effectivement. Depuis que je suis élu à la mairie de Laval, je reçois tous les jours les rapports de police. J'ai cette chance-là, ou malchance-là, au début, on dort mal, puisqu'on voit qu'effectivement, les violences intrafamiliales sont quasiment quotidiennes dans les rapports de police. C'est vraiment le premier fait de délinquance dans notre ville. C'est d'abord les violences, soit faites aux femmes, soit aux enfants. Et il est important d'en parler, évidemment, puisque c'est un sujet éminemment quotidien et qui est loin d'être un fait divers.
Aurélie Garabello, femme engagée.
Aujourd'hui, c'est le vernissage d'une exposition Combat de femmes à l'Hôtel de Ville de Laval, mais c'est aussi finalement le lancement d'un grand nombre d'actions pour ce mois des luttes contre les violences faites aux femmes. Comment cette collaboration s'est faite ?
Ça a commencé un 13 mars, à une belle exposition qu'il y avait à l'Hôtel de Ville, en lien avec la journée du 8 mars, où il y avait une super expo de photos de femmes. Marie-Laure Lemay-Clavrel, adjointe au maire, était là et j'étais avec une amie proche, Florence Froissart, sculptrice. Et la connexion a commencé à partir d'échanges sur la photo, sur nos centres d'intérêt, à savoir la sculpture. Pour moi, l'écriture, ça faisait longtemps que j'avais en tête de pouvoir permettre aussi de l'expression à travers l'écriture, plus la photo. Et la connexion s'est faite là-bas. Tiens, si on faisait quelque chose ensemble. Et voilà la naissance d'un projet. D'abord une rencontre, pas quelque chose d'écrit sur un tableau, des personnes qui se rencontrent, des femmes.
Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver là déjà ? Aujourd'hui, on voit une exposition qui mêle sculpture, peinture, témoignages écrits.
Oui, l'idée, c'est qu'il y a quatre lieux symboliques. Donc l'Hôtel de Ville, donc c'est une expo éclatée, vous ne retrouverez pas les mêmes pièces aux mêmes endroits. L'idée, c'est un peu un parcours. Donc à l'Hôtel de Ville, de la sculpture, des témoignages de femmes et de la peinture. Merci à Karine Fromentin, voilà aussi, d'être venue égayer aussi avec ces femmes résilientes cette exposition-là. On trouve aussi une suite donc, de témoignages à l'hôpital, une exposition aussi de pièces au hall. Ensuite, deux dates importantes aussi, le 22 au Belvédère, autour d'un café gourmand au chapeau, où là, il va y avoir lecture de textes, spectacle de danse de la danseuse Sidja qui a fui sa situation de femme opprimée en Chine. C'est sa première représentation officielle devant un public aussi grand. Lecture de témoignages après, débat. Des femmes de la Citadelle et de la Maison des Femmes vont également venir pouvoir participer à ce moment-là. Et dernier temps fort pour la clôture dans le cadre de cette coordination, ça va être à l'ASCOMAM le 23, 18h, rendez-vous à l'ASCOMAM, spectacle de danse de Sidja, lecture des textes par, entre autres, Sandrine Manceau et d'autres personnes que j'essaie de fédérer pour témoigner des textes, débat. Et après, un temps convivial avec DJ Screech de l'association des Good Moods qui va mixer. Et j'essaie de voir là normalement pour qu'une junior asso de quartier prioritaire puisse venir voilà, clôturer en proposant un petit buffet la soirée. Il y aura la graffeuse Zabdi qui sera là aussi pour faire une œuvre collective. Mettons de la couleur dans nos vies. Pour être résilient, l'art aide beaucoup.
Qu'est-ce qui est important de comprendre, de réaliser ? Pourquoi ce moment est important ?
C'est un sujet encore très d'actualité, tabou. Parce que je pense qu'il y a encore un sentiment de honte ou de culpabilité à oser dire qu'on a été victime. Il y a la peur qui reste, qui perdure. Donc un numéro à retenir, 3919. Parler, oser parler sans honte et se dire qu'on n'est pas seul. Amis, famille, partenaires, il y a des réseaux activés et on peut s'en sortir. Mais au plus on en parlera, au plus on se sortira de cette condition-là, en fait. Et je remercie tous les hommes aussi engagés dans cette démarche. Il y a aussi des hommes qui sont appuyés, donc je ne suis pas fémène, hein. Je ne suis pas contre les hommes.
C'est un moment fort parce que ça marque le parcours de tas de femmes, notamment aussi le vôtre, ça vous fait écho.
Oui, tout à fait, tout à fait. J'aurais mis du temps à réaliser que j'ai été victime de violences psychologiques. Voilà, j'ai mis 4 ans pour m'en rendre compte, durant 13 ans. Donc, c'est pas écrit sur mon front, c'est pas lisible. Donc, comme quoi, ça peut arriver à tout le monde. Et c'est aussi, moi, ma forme de résilience pour ressortir de ça. Ayant en tête aussi que les violences faites aux femmes, ça résonne aussi sur les enfants. Donc, comment est-ce qu'on les aide aussi à sortir de ça ? Voilà, donc tout est intrinsèquement mêlé, en fait. Protection de l'enfance, aide pour les femmes, c'est un débat à mener. et un combat.
On ressent énormément d'élan ce soir, je trouve ça très fort.
Ouais, de force à oser, à se battre, à avancer ensemble. Et pour, je suis très faite de ça, une valeur qui ne me quitte pas tous les jours, c'est chacun sa part de colibri. Si chacun fait un petit peu, les petites graines de chacun peuvent faire bouger les choses.
Et donc tous ces temps sont gratuits, c'est important de le dire aussi.
C'est ça, tous ces temps sont gratuits et ça sera au chapeau, éventuellement à l'Ascoman et au Belvédère pour ceux qui le souhaitent. L'idée c'est vraiment de diffuser l'information et de l'accueillir. Voilà, l'essentiel est là. Et le bouche à oreille après, 39, 19.
Et alors cette émission se termine aujourd'hui avec le retour de notre chroniqueuse Soizic et donc de sa chronique Un autre écho de l'écho. Alors Soizic, on est vraiment très heureux de vous retrouver, mais vous nous avez dit avoir changé.
Eh oui Margot, parce que figurez-vous que je ne suis plus écolo.
Ah bon ?
Voilà. Donc, ça fait 4 mois que je ne suis pas venue et vous savez, je suis devenue raisonnable, je suis devenue sage et j'écoute enfin ce que nous disent ceux qui savent mieux que nous. Eh bien, l'écologie, c'est has-been, circuler, il n'y a rien à voir. Alors non, Margot, ce qui est important aujourd'hui, c'est la dette, c'est l'économie. Il faut produire, il faut consommer, il faut avoir des emplois. Je suis donc devenue ce à quoi aspire notre gouvernement et la majeure partie du monde, de l'autre côté de l'Atlantique et autres. Eh bien, je me fous de l'écologie.
Alors comment ça, vous vous foutez de l'écologie ?
Eh bien parce que, figurez-vous Margot, que le secteur automobile est en crise. Ah. C'est une vraie catastrophe. Rendez-vous compte, le secteur automobile, c'est 7% du PIB de l'Union européenne. Or, les immatriculations de voitures électriques ont chuté de moitié cette année. Donc moi, je dis Margot, fuck le vélo et la marche à pied, à moi la bagnole. Alors oui, je sais, on peut chicaner en disant que la voiture est la principale source d'émissions de gaz à effet de serre et que la pollution de l'air tue chaque année 400 000 personnes en Europe. Ouais bon, faut savoir ce qu'on veut après tout. Hein. Le gouvernement a raison, mieux vaut que nos mômes soient asthmatiques et que nous ayons un job plutôt que l'inverse. Et puis après, prenez la dette. C'est épouvantable cette dette. 113% du PIB, 3 000 milliards d'euros, 42 000 euros par personne. C'est une nouvelle catastrophe. Enfin, nouvelle, je m'entends, hein. Ça fait juste 50 ans que ça dure, quoi. Mais aujourd'hui, il est urgent de la rembourser. Alors pourquoi maintenant ? En fait, je sais pas bien. Hein. Mais comme c'est notre Premier ministre qui vient quand même du parti de ceux qui ont fait le moins de voix aux élections qui le dit, ça doit être vrai. Donc, faisons des économies. Et puis, quand on regarde, y a quand même plein de secteurs où on dépense des sous qui servent pas à grand-chose. Prenez l'éducation, par exemple. Eh, franchement, avec TikTok, moi je dis que nos gamins, ils savent tout sur tout, et donc du coup, je ne suis pas sûr qu'ils aient encore besoin des profs. Donc, 2000 profs en moins, normal, au vu de la baisse démographique en plus. Alors je sais, Margot, vous allez me dire qu'on aurait peut-être pu en profiter pour décharger des classes de 35 élèves et limiter la dégradation des savoirs, justement dû à TikTok. Hein, bon. Oui, mais là, vous voyez, à long terme, et la dette, c'est du court terme. C'est aussi du long terme. Ah oh, mince, oui c'est vrai, ce sont les élections qui sont du court terme. Ouais, bon. Et puis, il y a aussi ce milliard d'économies sur ma prime rénov qui sert à financer les travaux d'isolation des bâtiments. Eh, c'est pas une belle idée ça ? Bon, je sais, le chauffage et la clim, c'est la deuxième source de pollution. Mais sauf que je vous l'ai déjà dit, il faut se fixer des priorités quand on gouverne. Et aujourd'hui, c'est la dette. Demain, nous verrons bien, la planète peut attendre, pas la dette. Ah, c'est l'inverse ? Ah, c'est la planète qui ne peut plus attendre. Ah oui, mince, je me suis trompée. Ah oui, mais c'est vrai, j'ai dit que j'étais plus écolo. Donc la réalité, on verra plus tard. Hein, à moi, le politiquement et l'économiquement correct.
Oh là là, Soizic, est-ce que vous êtes sûr d'aller bien ? Vous savez bien que cette course à la croissance ne peut pas être infinie et que la rigueur budgétaire va nuire à la planète. Tiens, vous qui aimez les animaux, pensez aux dégâts sur la biodiversité.
Eh bien justement, Margot, la biodiversité, je m'en fous aussi. Sauver les gorilles, les bonobos, les dauphins ou les abeilles, je m'en fous. Et d'ailleurs, ces grands singes, ils nous ressemblent tellement qu'ils me foutent les boules quand je croise leur regard. Je préfère finalement qu'il n'y en ait plus, c'est plus facile à vivre. Et puis, on a déjà tué 80% des espèces mammifères, un peu plus ou un peu moins, on n'est plus à ça près. Hein. Du moment qu'on peut consommer à fond, on y va. Et puis les abeilles, se priver de quelques quintaux à l'hectare de blé ou de maïs pour sauver 3 bestioles qui font bzz bzz et qui nous piquent quand elles sont mal lunées, moi je dis non merci. Hein. Bon, je sais, elles contribuent à hauteur de 60% de la production agricole. Mais moi, j'ai confiance dans les technologies, Margot. La solution, elle est là. Inventer des trucs pour remplacer les abeilles. Je suis sûr qu'on y arrivera. Après tout, on est bien arrivé à marcher sur la Lune. Hey Margot, ça vous dit pas ? Vous faire plaisir sans limite, consommer à fond pour créer de l'emploi et rembourser la dette, est trop cool comme programme, non ? Comment ? Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ? Oh là là, vous n'êtes vraiment pas drôle, hein.
Et on est vraiment très content de vous retrouver, Soizic. Merci pour cette très très belle chronique. Et donc, on vous retrouve dans 2 semaines.
Avec grand plaisir. J'aimerais vous voir à quelque chose, j'espère, d'un petit peu moins acide et d'un petit peu plus de bonnes nouvelles.
En tout cas, un ton qui nous fait toujours du bien. Merci, Soizic. Bien voilà, l'agité du local s'arrête ici. Merci à Manon Chirsen d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci encore à Soizic pour cette très belle chronique et ce retour qui nous fait du bien. Votre soirée va commencer à 19h sur les ondes de l'autre radio avec l'émission Novorama qui chaque semaine vous propose une sélection de nouveaux albums indie, rock, pop et électro avec des chroniques, des interviews de groupes et d'artistes émergents. Ensuite, la soirée continue avec All Blues à 21h et l'émission nous emmène au festival de Montfort-sur-Meux en Ille-et-Vilaine. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission de l'Agité du local. D'ici là, prenez soin de vous, soyez bienveillants et s'il vous plaît, faites-le bien.
Bon bah c'est fini.
Tout de même, ça passe vite.